Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, son Fils, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Alors bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte, que vous veniez ici pour la première fois ou que vous veniez régulièrement, soyez ici chez vous, dans cette maison où nous sommes rassemblés pour nous ouvrir à la présence de Dieu. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du site internet ou celui des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres, et en particulier avec celles et ceux qui traversent un temps d'épreuve, d'incertitude, un temps de peine ou de solitude. Alors aujourd'hui, bienvenue aux enfants et aux jeunes de l'éducation biblique. Bienvenue aussi à l'équipe de monitrices qui entoure ces jeunes. Et je voudrais avoir une pensée spécifique pour Béatrice, qui n'est pas là ce matin, exceptionnellement, car Jean-Pierre est tombé et s'est cassé la clavicule hier, et donc elle reste avec lui pour le soutenir. Bienvenue aux parents, aux familles de tous ces enfants présents. Et bienvenue à David Castan qui nous accompagne à l'orgue ce matin. Prions ensemble. Éternel, nous sommes rassemblés ce matin en ton nom, autrement dit, en ton amour. Relève-nous de notre torpeur. Réveille en nous l'urgence de ton évangile. Ressuscite en nous le désir de te suivre. Et que plane sur notre assemblée le souffle de ton esprit. Que descende sur nous la grâce de ton Fils, Jésus, le Christ. Pour ouvrir ce culte, je vous invite à prendre le premier des répons qui se situe au début du psautier français, dans les petites pages. Répons de l'éducation biblique. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique et je vous invite à vous lever pour le chanter. Avec le psalmiste, nous louons Dieu. Éternel, ta présence est comme une pluie qui tombe sur un terrain moissonné, comme des ondées qui arrosent la campagne. Tu es promesse de vie au cœur même de l'aridité de notre vie quotidienne. Éternel, ta parole nous affranchit de l'oppression et de la violence. Car dans l'assurance de ton amour pour le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide, nous trouvons les mots pour te confier notre peur et notre espoir dans la promesse du règne qui vient. Nous puisons la force de choisir pour notre vie les chemins de la justice. Dans la certitude de ta fidélité, nous recevons l'audace de rencontrer et de témoigner. Merci, Éternel, pour nos cœurs et nos yeux qui s'ouvrent sur la simplicité de tes dons et pour la joie qui nous illumine. C'est par elle que ton règne s'avance parmi nous, que tous les rois se prosterneront devant toi et que toutes les nations te serviront. Je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 72. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. Revêt, Seigneur, de ta justice. Prenez place. Écoutons ce que Dieu nous donne la force de faire selon la prophétie d'Ésaïe. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable.
Le prince de la
Prions ensemble. Éternel, nous voici devant toi, tels que nous sommes, avec notre vie partagée, avec notre soif de te suivre et nos résistances à ton appel, avec notre désir d'aimer et nos égoïsmes, avec notre quête de lumière et nos obscurités, avec notre foi et avec nos peurs. Oui, nous voici devant toi tels que nous sommes, et voilà que tu nous appelles à convertir notre regard, à changer d'orientation, à ne plus regarder notre vie selon nos critères et nos points de vue, mais selon les tiens. Tu nous appelles à déposer à tes pieds nos craintes et nos lâchetés, à nous dépouiller de toutes nos illusions et à laisser ta lumière se déposer sur nos ténèbres. Mais nous voici, tels que nous sommes, avec nos doutes et nos contradictions. Mais nous voulons te suivre tout de même. Alors accepte notre repentance, Seigneur, et enracine-nous dans la confiance. Amen.
Tel que je suis.
Accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Ne crains pas, dit l'Éternel, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es précieux à mes yeux et je t'aime. Va, ta foi t'a sauvé. Ton péché est pardonné. Va, avec la force que tu as. Chantons à Dieu. Je vous propose de confesser notre foi avec le texte de la confession de foi de Barmen, écrit en 1934 par l'Église confessante protestante opposée au régime nazi. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les hommes. Dieu, le Père, a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. c'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les hommes, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie, juge, humilie, calomnie Jésus-Christ, car tout homme a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'homme. Et nous avons à faire nôtre les choix qu'il a faits. Faire passer les personnes avant les richesses, la liberté avant la tranquillité, la vérité avant la propre opinion, le respect des autres avant l'efficacité, l'amour avant la loi. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille au lieu d'exclure. Il respecte au lieu de condamner. Il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Et nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, les versets 19 à 30. Et j'ai pris la traduction de la Colombe. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul ou Paul. et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Et ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et c'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Merci Seigneur pour ta parole. Cette parole qui nous surprend toujours un peu, mais qui ne cesse de nous conduire. Amen. Alors je vous invite à prendre le cantique numéro 178. 178. Qu'aujourd'hui, toute la terre, nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 6. Je vous invite à vous lever. Et ensuite, à la fin de ce cantique, les enfants de l'éducation biblique partiront pour le mini-culte à la maison presbytérale, accompagnés de leur monitrice. J'invite l'Assemblée à reprendre place et souhaiter un bon mini-culte avec les enfants et pour les enfants. et ensemble nous prions. Éternel, en cet instant, peut-être sommes-nous fatigués, découragés, désespérés. Nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive. Nous perdons le sens de notre vie et les événements du monde brouillent notre communion avec toi. Mais c'est alors que tu nous rejoins dans notre marche. Pourtant, nous n'arrivons pas à te reconnaître du premier coup. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, c'est toi qui viens à notre rencontre. En expliquant les Écritures, c'est toi qui éclaires notre chemin. Alors, nous t'en prions de tout notre cœur. Envoie sur chacun et chacune de nous ton Esprit Saint. Si tu ne viens pas toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre. Notre compréhension sera limitée. Mais si ton Esprit nous éclaire, ta parole fera sens. Notre marche s'orientera et notre chemin se précisera. Alors, viens, Esprit Saint, ouvrir notre cœur et notre intelligence à la compréhension de la parole. Amen. Alors, en ce jour d'éducation biblique, nous continuons d'étudier le livre des Actes. Et pour notre rencontre d'aujourd'hui, l'équipe des monitrices, Béatrice et moi-même, nous avons retenu le thème du partage à partir d'un extrait, donc, du chapitre 11 que nous venons de lire. Le livre des Actes des apôtres relate les actes de certains apôtres, en particulier ceux de Pierre et Paul, les apôtres de référence. Les auteurs de ce livre, que l'on pense être attribué à Luc pour l'essentiel de ce texte, ont le souci de montrer comment s'organise, s'affirme et rayonne la première Église après l'ascension du Christ. Tout d'abord autour de la personne de Pierre, à partir d'Israël, dont Jérusalem est le cœur, puis avec Saul qui devient Paul, à travers le monde romain tout entier, marquant ainsi un côté universel dans le contexte de l'époque. Est-ce que vous savez que l'autre nom du livre des Actes des Apôtres, c'est l'Évangile du Saint-Esprit ? Avant d'être arrêté et de mourir, Jésus promet à ses disciples de leur envoyer l'Esprit Saint. Et c'est le jour de la Pentecôte que cette promesse se réalise, selon justement le livre des Actes. Et l'Esprit Saint que reçoivent les disciples dans la chambre haute est une force qui va les propulser au dehors, dans la ville. Et cette force va les pousser en avant, les faire devenir témoins de Jésus-Christ par l'annonce de l'Évangile. Et c'est ainsi que cette aventure commence. Pierre, dans son premier discours devant la foule réunie à Jérusalem, proclame « Je répandrai mon esprit sur toute chair », reprenant ainsi la prophétie de Joël manifestant son accomplissement. Ceux qui demandent le baptême au nom du Seigneur Jésus reçoivent ce don par l'imposition des mains. Et l'Esprit Saint descend sur toute personne à l'appel de la prière, qu'elle soit cette personne juive ou non juive. Chacun ouvre son cœur à l'enseignement inspiré par l'Esprit. Mes amis, si nous n'avons pas cela en tête lorsque nous lisons le livre des Actes, alors nous passons à côté de la force intérieure qui irradie chaque disciple, chaque apôtre. Et nous passons à côté de toutes les grâces, pour ne pas dire de toute la grâce, que procure le don de l'Esprit à chacun à travers la lumière, la force, la sagesse et aussi le discernement. Et l'épisode raconté, celui que nous venons de lire, se situe dans un contexte de persécution survenu après la lapidation d'Étienne. Et nous sommes à Antioche. Et tout d'abord, les apôtres annoncent l'évangile à personne d'autre qu'aux Juifs. Puis quelques-uns s'enhardissent et annoncent l'évangile aux personnes de langue grecque. Et voici que toutes ces personnes, juives et non juives, se tournent vers le Christ. Et cette assemblée grandit de jour en jour. Et c'est à Antioche que les apôtres prennent le nom de chrétiens, disciples du Christ, littéralement. Mais ce nom de Christ vient de l'hébreu « Meshia », qui veut dire « celui qui est oint », celui qui reçoit l'onction d'huile sur sa tête, ou comme une sorte de crème, ou même de pommade. Alors au départ, ce thème de chrétien est plutôt un quolibet, une ironie, une pitrerie, que l'on pourrait traduire par « pommadé ». Et ces apôtres, en particulier Barnabas et Saul, prêchent l'amour du prochain, le pardon, l'accueil de Dieu pour tous. Ils refusent la violence et annoncent un royaume d'amour. Et donc, on se moque d'eux. Et de cette moquerie, ils vont en faire une appellation assumée, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et c'est là que le récit bascule dans quelque chose d'autre. Voici qu'un disciple nommé Agabus prophétise sous l'action du Saint-Esprit qu'une grande famine allait survenir, et cela advint sous le règne de l'empereur Claude. La famine est un fléau récurrent dans la Bible. On se souvient de la famine en Israël au temps de Joseph et ses frères qui sont poussés à demander asile en Égypte. On pense encore à la famine qui obligea Noémie, la belle-mère de Ruth, à fuir Bethléem et à trouver refuge au pays de Moab. Le nom d'Agabus veut dire sauterelle, qui rappelle d'autres fléaux bien connus du livre de l'Exode, comme les 10 plaies d'Égypte. Alors la mission de ce disciple est contenue dans son prénom, prophétiser le fléau de la famine. Et les versets qui ont retenu notre attention pour notre rencontre d'aujourd'hui sont ceux-ci. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par l'intermédiaire de Barnabé et de Saul. Une catastrophe arrive dans une autre région que la leur. Sensibles à cette détresse, les disciples s'organisent, mettant en place un partage de leurs biens pour secourir les personnes en danger de mourir de faim. Le mot en grec qui est employé pour « secours » est en fait le même mot que pour le mot « service », « diaconia », qui a donné le terme de « diaconie » ou d'une façon plus actuelle, « entraide ». Qu'est-ce que l'entraide ou la diaconie aujourd'hui, sinon toujours ce même « secours » par le partage? Et de quel partage s'agit-il? De partage des biens, partage des denrées, partage de vêtements, mais aussi beaucoup plus, peut-être partage de paroles de soutien et d'encouragement, partage aussi certainement de la parole, l'évangile, pour toutes ces personnes qui devaient se sentir abandonnées de Dieu. Partager. Ce mot en français est à double entrée, comme on dit. Il contient à la fois la division et la réunion. Il peut se comprendre ainsi comme couper quelque chose en plusieurs éléments, le distribuer, couper un gâteau en plusieurs parts, en donner une à chacun, avoir un sachet de bonbons et en donner un à chacun, par exemple. Chacun, dans ce cas, reçoit sa part. Mais on dit aussi que l'on partage la même joie ou le même chagrin. Et alors on dit que l'on prend part à cette joie ou à ce chagrin. Le partage a longtemps appartenu au registre des héritages, avec l'idée du calcul en vue d'une distribution, avec un tiers qui supervise, à savoir le notaire ou le banquier, afin que l'opération soit équitable. Et ne dit-on pas aussi partager les bénéfices d'une entreprise ? Alors si les bénéfices sont ici à entendre sous le sens de revenus, de dividendes ou de profits, cela relève d'une organisation très pointue. Mais on peut entendre aussi le mot « bénéfice » dans le sens étymologique de ce terme, à savoir les bienfaits. Littéralement, « bienfait » veut dire « faire du bien ». Alors les bénéfices relèvent de tout ce qui fait du bien. Partager les bénéfices ne repose pas que sur une distribution de monnaie sonnante et trébuchante, mais également sur un partage d'autres valeurs qui font aussi du bien, telles que l'attention, l'écoute, le soutien, l'encouragement, la protection, la présence, l'amitié. Et voici ce qu'écrit Dominique Lecourt, philosophe, mais aussi président du comité d'éthique de l'Institut de recherche pour le développement. Partager une joie, c'est transcender la vision d'une humanité divisée, fragmentée, d'une humanité constituée d'individus atomisés, jouant chacun pour soi, sa partie ou son rôle sur la scène du théâtre social. Et comme l'a montré en son temps Spinoza, partager, c'est alors l'un par l'autre, dans cette union affective autant que rationnelle, amplifier le sentiment d'une commune humanité. Le partage peut donc amplifier le sentiment d'une commune humanité. Eh bien, mes amis, il me semble que nous devrions le marquer en lettres capitales un peu partout sur les frontons de nos institutions, tant laïque que religieuse. Parce que partager, ce n'est pas si inné que cela, même au travers des textes bibliques. Tout au long des textes prophétiques, on s'aperçoit que Dieu n'a de cesse de rappeler à son peuple le sens du partage par le soin porté aux plus petits et aux plus déshérités. Dieu, par l'intermédiaire de ses prophètes, rappelle sans cesse la solidarité auprès des plus démunis. Pourtant, la société hébraïque est bien organisée. Il y a tout un système de solidarité pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Et pourtant, il y en a. Comme l'indique le terme employé à travers les textes, qui revient comme un refrain, ne pas négliger la veuve et l'orphelin. Prendre soin des veuves, ne pas exploiter ni maltraiter les veuves, les orphelins et les immigrés. Ces injonctions parsèment les livres d'Ésaïe, de Jérémie et des autres prophètes. Et les veuves, comme les orphelins et les immigrés, dans la Bible symbolisent les situations d'inégalité et d'injustice. Alors, c'est pour cela que l'accent est mis sur de nombreux textes, dans de nombreux textes sur le partage, dans le seul but que personne ne souffre. Mais ce n'est pas si simple. Partager ne coule pas de source, et on le voit très bien dans les réactions du jeune enfant qui n'a aucune envie de partager ses jouets, surtout avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Alors, il faut du temps. Tant de temps d'apprentissage pour ne plus craindre de partager. tant de temps pour apprendre et comprendre que partager avec autrui est le premier critère du bonheur, comme l'écrit Frédéric Lenoir dans son livre « Le miracle Spinoza ». C'est peut-être pour cela que les chrétiens, toutes confessions confondues, ont développé la pensée sociale de l'Église, largement inspirée par toutes les situations de partage prônées et vécues dans le Nouveau Testament, en particulier avec les Actes des Apôtres, qui enseignent la mise en commun des biens afin que personne ne soit lésé. Mais, me direz-vous, il y aura toujours des profiteurs de régime qui vont s'en mettre plein les poches. D'où un étrange sentiment qui nous habite et l'on se découvre partagé. Et être partagé, au sens passif, c'est être animé de sentiments contraires. C'est être écartelé, divisé de l'intérieur. Oh, ça n'a rien à voir avec la division de quelque chose en vue de le donner. Non, ici, être divisé, c'est prendre conscience de nos contradictions. Je voudrais bien partager, mais je n'y arrive pas. Quelque chose me retient. Peut-être la peur de manquer, tout simplement. Alors, c'est vrai, mes amis, qu'avec la notion de partage, eh bien, il y a une autre notion, celle du dépouillement. Et pourtant, un dépouillement est nécessaire si nous voulons que cessent les inégalités. De nombreuses analyses économiques révèlent que les inégalités se sont creusées dans notre pays pendant la pandémie. Il est donc impératif de trouver de nouvelles solidarités. Et cela commence, pourquoi pas, par partager. Oh, pas n'importe comment, mais en fonction des ressources de chacun. Les chrétiens le savent, puisqu'ils sont nourris de la parole, à commencer par le témoignage des apôtres qui sont passés aux actes. Et puisque ce texte s'adresse à nous aujourd'hui, rassemblés dans ce temple, eh bien c'est à nous de nous en saisir et de l'actualiser dans le contexte qui est le nôtre. Et le partage sous toutes ses formes, matérielles, mais aussi amicales, fraternel, spirituel. Cela était, est et restera une valeur humaine incomparable, puisqu'elle nous met en relation l'un avec l'autre, les uns avec les autres. Le partage peut donc amplifier le sentiment d'une commune humanité, devenir toujours plus humain. Ne serait-ce pas le plus sûr chemin de rencontrer Dieu, puisque chaque être humain est créé à son image. Amen.
Thank you.
dans le recueil Louanges et prières. Nous prendrons maintenant le cantique numéro 222. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Et pour cela, nous nous levons. Prenez place. Et je cède la parole à Aurore Sagliotebo pour quelques annonces.
Bonjour à tous. Merci Agnès. On va commencer par se tourner vers la caméra. Merci à vous d'être nombreux. Pour ceux qui ne sont pas avec nous, je pense à Gérard Delain, qui est là-haut et je suis sûre qu'il nous regarde, et à Jean-Pierre et Béatrice, qui ne sont pas non plus avec nous ce matin, et puis à tous ceux qui sont en province ou à l'étranger, qui nous suivent sur Internet et qui, par moments, nous retrouvent ici physiquement. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des membres de Lyon qui sont là dans l'Assemblée et d'habitude, ils nous suivent par caméra interposée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter, c'est donc une lettre de nouvelles que nous envoyons tous les vendredis dans la journée, en fonction de l'emploi du temps possible. Vous pouvez vous inscrire en descendant, si vous avez un téléphone, vous allez sur le site de l'Oratoire du Louvre, vous allez tout en bas, et il y a marqué « Inscrivez-vous à la newsletter », donc vraiment, faites-le. Par exemple, si vous l'avez fait, et si vous l'avez lu vendredi, vous sauriez que, par exemple, cet après-midi, à 16h, le chœur Francis Poulenc se produit ici même. Également cette semaine, toujours peinture et grec lundi, comme tous les lundis. Mardi, si Béatrice et Jean-Pierre ne sont pas à l'hôpital avec un rendez-vous médical, parce que, comme nous a dit Béatrice tout à l'heure, un rendez-vous qui se prend ne se refuse pas à l'hôpital, normalement Béatrice assurera le culte d'intercession mardi midi, sinon tu l'assureras, le culte d'intercession, et après, déjeuner convivial et partage biblique. Donc il se peut que le déjeuner et le partage biblique soit reporté. Nous ne le pensons sincèrement pas. Béatrice va tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Surveillez le site mardi matin, s'il vous plaît. Et si c'est annulé, on vous contactera en tout cas les fidèles qui viennent le mardi. Et sinon, vous regarderez le site. Jeudi, tapot spirituel.
Absolument.
Voilà pour les nouvelles. Également, dans la newsletter de vendredi dernier, la route 2024 propose... Donc la route 2024 sont les plus anciens des scouts. C'est ceux qui viennent de finir le parcours et qui sont en dernière année. Les routiers font toujours un projet humanitaire. Ils ont besoin donc d'argent pour monter leur projet humanitaire et vous proposent plein de petits boulots, du babysitting, du rangement, du déménagement, enfin tout ce que vous le souhaitez. Et ils ont laissé leurs adresses et leur numéro de téléphone sur cette newsletter. Des scouts plus jeunes sont là, venez, rejoignez-moi. Donc nous avons les panthères, enfin deux des panthères, du clan des panthères qui sont là, qui également vont proposer de partager des gâteaux, puisqu'elles sont dans le thème. Donc je vous passe le micro.
Donc, on est les scouts de l'Oratoire du Louvre et on fait une vente de gâteaux donc, juste à l'entrée. Et c'est pour financer notre camp. Et bah voilà, si vous avez besoin de quelque chose pour venir nous acheter. Voilà, merci.
Alors, la difficulté, ça va être de ne pas être partagé. Entre partager.
Alors.
Partager avec les scouts, partager avec nous. Mais le principe, c'est de se dépouiller, de toute façon, si j'ai bien suivi Agnès. Donc, dépouillons-nous sans panier digital.
Toujours pas.
C'est toujours pas possible, mais ça va venir. On a promis pour Pâques, je croise les doigts. Nous lançons... Tu n'aimes pas le terme lancer ?
Non.
Nous proposons l'offrande. Donc, pensez aussi aux scouts derrière. Mais bon, les gâteaux font grossir, donc pensez à l'Église.
C'est pas grave.
C'est un moyen de témoigner.
Voilà.
L'offrande de l'Église, ne l'oublions pas.
Oui.
Merci beaucoup. Bon dimanche.
Merci. Avant de nous unir dans la prière d'intercession, je voudrais dire quelque chose à destination des catéchumènes. Ce n'est pas parce que Béatrice n'est pas là aujourd'hui que vous êtes dispensée de catéchisme. Et donc, nous nous retrouverons comme prévu à 13h30 tout à l'heure. Alors, je pense que ce sera Salmono. Voilà. Merci. Prions ensemble. Éternel, comme tout le monde, j'aime retrouver celles et ceux qui sont comme moi, qui me ressemblent, mes amis, ma famille. C'est plus facile de leur parler et de partager avec eux. Mais toi, tu ouvres mes yeux et tu me dis, regarde aussi les autres, partage avec eux, même quand ils te semblent loin. Parce qu'ensemble, vous êtes mes enfants. Alors, Éternel, je découvre que c'est beau de rencontrer et de partager avec celles et ceux qui ne sont pas comme moi, qui vivent autrement, qui parlent un autre langage, qui voient et connaissent d'autres choses que moi. Alors je découvre que j'ai de la joie à donner ma part, autant qu'à recevoir la part de celle ou de celui qui me donne. Éternel, merci de nous ouvrir les yeux et de nous inviter toujours à nous accueillir réciproquement, à partager nos richesses, nos différences, toutes belles. Alors nous te confions, celles et ceux qui demandent le secours. Le secours peut-être de nos biens, mais aussi le secours de notre amour, le secours de notre présence, le secours de notre écoute. Nous te prions pour celles et ceux pour qui nous n'arrivons pas à avoir de sentiments positifs, quelle qu'en soit la raison. Et nous avons du mal à partager ce qui fait l'essentiel de notre vie. Nous te confions toutes les situations de détresse que nous entendons officiellement, mais aussi toutes les situations qui restent dans l'obscurité des cachots, dans l'obscurité des camps, dans l'obscurité de la solitude et de la souffrance. Avec la parole que tu nous donnes inlassablement, tu nous montres des chemins de vie que nous pouvons emprunter sans avoir peur, simplement si nous acceptons de mettre nos pas dans les tiens, toi qui nous as précédés dans toute situation. Ensemble, nous rassemblons nos prières dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur le pain comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et recevez maintenant l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière apparaîtra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu appelleras et le Seigneur te répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Amis, sœurs et frères, que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun et chacune d'entre nous. Qu'il nous garde dans son amour et qu'il nous bénisse et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Que tout mon cœur soit dans mon chant, qu'il soit brûlant d'une haleine d'argent. Je te rends grâce en ta maison, je loue ton nom devant les orangeaux. Tu es venu pour exalter la renommée de ta parole. J'adore ta fidélité.
Et je vous souhaite un très beau dimanche.